paix de notre Seigneur soit sur nous tous. Alors, je vais vous parler de la lèpre. Avant d'ouvrir la Bible dans Luc, la lèpre dans la Bible n'est pas une maladie comme les autres. Si on lit bien le Nouveau Testament, Jésus-Christ ne guérit pas de la lèpre, il la purifie, ce qui est un petit peu différent. On va voir pourquoi. La lèpre, dans toute la parole, est le symbole du péché. Donc, un mot peut-être, la lèpre est une maladie qui prend le corps tout entier, qui est en fait une maladie du système nerveux, qui fait qu'on a plus mal. C'est-à-dire que, pour prendre un point de comparaison simple, quand vous avez une serrure et qu'il faut forcer sur la serrure, il y a un moment où on ne peut plus forcer sur la clé parce que ça fait mal aux doigts. Le lépreux va forcer jusqu'à ce que la clé lui rentre dans le doigt et ne sentira rien. Et donc, il y a des conséquences sur la peau, des conséquences sur le visage. Et la conséquence, soyons francs, c'est qu'un lépreux est d'une rare laideur. D'accord ? Un lépreux, c'est laid. Et il faut bien voir le péché comme on voit la lèpre. Dieu voit le péché exactement comme nous voyons un lépreux, peut-être même pire encore. Donc, quand on parle d'un lépreux, un lépreux symbolise le péché. Alors, il faut comprendre ce que vivaient les lépreux. Et avant d'aller dans le Nouveau Testament, on va aller dans le Lévitique, au chapitre 13. Le Lévitique est un livre que les jeunes lecteurs de la Bible, donc à partir du verset 45, on a du mal. Il n'y a pas vraiment de trame narrative, c'est une série de lois, mais vous allez voir que le Lévitique est un livre qui parle de Jésus-Christ du début à la fin, mais c'est bien sûr parfois symbolique. Donc, Lévitique 13, à partir du verset 45. Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « impur, impur ». Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Donc, vous voyez que le lépreux n'a pas de vie sociale, il vit seul, il n'a aucun contact avec les gens non lépreux, donc c'est un véritable mort-vivant en fait. Hein. Il n'a aucune espérance, sa seule espérance c'est de mourir pour être délivré de tout ça. Alors, fort de cette introduction, on va prendre Luc au chapitre 5. Et donc, le titre du message aujourd'hui, Luc 5 à partir du verset 12, Jésus-Christ touche le lépreux. Donc, Luc 5 à partir du verset 12. 12, 13, 14. Jésus était dans une des villes, et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha, et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Puis, il lui ordonna de n'en parler à personne. « Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. » Alors, je vous propose trois parties en suivant donc les trois versets. Verset 12, le lépreux. Verset 13, Jésus-Christ. Et enfin, verset 14 et après. Alors, le lépreux, alors, quand on dit dans une des villes, où ça reste vague, hein, vous avez quasiment le même récit en Marc 8, de 2 à 4, et, pardon, Marc 1, 40-45, et Matthieu 8, de 2 à 4, avec des petites différences. Alors, on ne sait pas trop dans quelle ville c'était, donc si on ne sait pas, c'est que ça n'a pas beaucoup d'importance. Il est dit que cet homme était couvert de lèpre. Donc, s'il est couvert de lèpre, il n'est pas lépreux d'avant-hier. Il est lépreux depuis très longtemps. Et donc, on voit un résultat, mais cet homme n'est pas né lépreux. Un jour, vous lirez dans le Lévitique 13, il a découvert qu'il avait une plaie. Il est allé voir le prêtre, après un temps d'attente. Le prêtre lui a dit « Tu es lépreux, il faut que tu sortes ». Il ne dit pas, on peut supposer qu'il était marié, pas question de dire au revoir à sa femme. Ses enfants, il ne les verra plus que de très très loin. Il habitera seul, n'ayant que des contacts avec d'autres lépreux. Donc, il est couvert de lèpre depuis très longtemps, et on peut supposer que il attend que quelqu'un puisse le purifier. Et donc, c'est un paria, il ne peut pas aller au temple, il ne peut pas travailler, donc on peut supposer que non seulement il est impur, mais les journées sont longues. Donc il est pauvre, et il n'a même pas la possibilité de faire l'aumône de façon classique. Il attend que les gens lui donnent. Et je vous rappelle aussi, c'est pas dit dans le texte, mais donc il faut savoir que quand les lépreux s'approchaient d'un peu trop près, les non-lépreux lui jetaient des pierres. Donc, c'est pas une vie, quoi. C'est une vie qu'on souhaiterait ne pas avoir. Alors, il est lépreux et il s'approche avec une attitude particulièrement humble. Remarquez, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Donc, s'il tombe sur sa face, ça, c'est une façon de dire que symboliquement, il s'estime mort. Il ne le regarde même pas, puisqu'il est sur sa face. Donc, s'il est dans cette position-là, c'est qu'il adore. Il adore Jésus-Christ. Il l'a trouvé. On peut supposer qu'il a entendu parler de lui. Il l'a trouvé et il le prie. S'il le prie, c'est qu'il reconnaît qui est-ce qu'on prie. On prie Dieu uniquement. Donc, il reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur. Il est d'une extrême humilité. Puisque quand on veut être humble, on se met à genoux. Lui, il va plus loin, puisqu'il est étendu, la face contre terre. Alors, on reconnaît une attitude liée aux béatitudes. Souvenez-vous, hein, on peut prendre quelques versets des béatitudes dans Matthieu. C'est là où c'est le plus complet. Puisque vous avez heureux, juste, heureux les affligés, en Matthieu 5 au verset 4. Au verset 3, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, c'est exactement son cas. Heureux les affligés, car ils seront consolés, c'est exactement son cas. Heureux les débonnaires, c'est-à-dire les doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Donc on pourrait continuer. Donc, en fait, ce lépreux, c'est exactement le pécheur qui vient à Christ. Le pécheur qui vient à Christ, il a conscience de son péché. Il a conscience qu'il ne peut pas résoudre le problème lui-même. On est tous passés par là. On a conscience de son péché, et puis on cherche à faire des bonnes œuvres, on cherche à s'améliorer par soi-même, mais on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et c'est à ce moment-là qu'on vient à Christ, exactement comme ce lépreux. On vient à Christ en ayant confiance que lui seul peut nous pardonner et nous purifier. C'est exactement ce que fait ce lépreux. Il vient avec une extrême humilité, on l'a vu, et on va voir qu'il le supplie. Seigneur, donc, il lui fait une prière, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alors, c'est là où il faut bien, il y a certains chrétiens qui ont tendance à séparer sauveur et seigneur, et qui disent, il faut que Jésus-Christ soit ton sauveur avant d'être ton seigneur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc, c'est parce qu'il est Seigneur qu'il peut nous sauver, et il nous sauve parce qu'il est Seigneur. Les deux vont ensemble. Alors, bien sûr, il est sauveur d'abord, mais c'est parce qu'il est sauveur qu'il est Seigneur. C'est parce qu'il est Seigneur qu'il est sauveur. Les deux sont indissociables. Dans les actes, lorsque le geôlier, c'est Pierre qui s'est échappé, miraculeusement, le geôlier se trouve à pas trop savoir quoi faire, demande ce qu'il faut pour être sauvé, il lui répond: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Il dit bien, crois au Seigneur Jésus. Il est Seigneur. Que vous le reconnaissiez ou non comme Seigneur, il est Seigneur. Et c'est parce qu'il est Seigneur qu'il peut vous sauver. Donc, si le lépreux lui dit, si tu le veux, il le reconnaît comme Seigneur. Si on dit à quelqu'un, si tu veux, ça veut dire qu'on se soumet à la volonté, il se soumet à sa volonté. Donc, il ne lui impose pas quelque chose, il le reconnaît comme étant le Seigneur. Il se soumet à sa volonté en disant aussi « tu peux me rendre pur » à sa volonté s'il le souhaite. Il dit en très très peu de mots qu'il est Seigneur, qu'il peut le sauver et qu'il est tout puissant. Si la lèpre symbolise le péché, qui d'autre que Dieu peut pardonner les péchés? Donc là encore, c'est la conversion. On se met au pied de la croix, à genoux, en tout cas dans une attitude intérieure d'humilité, et Jésus-Christ nous pardonne tout. parce qu'il le veut et parce qu'il le peut. Si tu veux, si tu le veux, pardon, tu peux me rendre pur. Dans cette très courte prière, c'est une déclaration de foi. Il dit, il reconnaît que Jésus-Christ est le Seigneur, l'unique Seigneur, qu'il peut le pardonner s'il le veut. Donc il ne l'oblige pas. Il y a certains chrétiens qui prient. J'ai vu un pasteur prier une fois pour la guérison de quelqu'un et qui a dit « Seigneur, guéris-le maintenant ». Je précise que ce n'est pas ici, hein, d'accord. Je précise. Ça m'a un peu choqué sur le moment, compris pour la guérison de quelqu'un, d'accord, mais on n'a pas à imposer, d'accord. Donc, quand on prie pour une guérison, c'est toujours que ta volonté soit faite. Alors, ce que le verset dit pour nous, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est ça dit par quelqu'un qui a vraiment conscience qu'il a besoin d'être purifié. Et nous devrions tous avoir cette conscience. Le lépreux a cette conscience physique, parce que il est entre guillemets mort, le lépreux, puisque comme il n'a pas part à la vie des autres, d'une certaine façon, il est mort. On a employé le terme de mort vivant tout à l'heure. Et donc, s'il est purifié, il peut à nouveau réintégrer la vie. Et dans son cas, c'est même plus que ça. Comment on va le voir? Alors, le lépreux, donc, ben, c'est chacun de nous. Nous sommes tous, ou si nous sommes chrétiens, nous l'avons été, des lépreux spirituels. Quand on s'est rendu compte que personne ne pouvait nous pardonner, et ne pouvait nous purifier, certainement pas nous-mêmes, quand on vient à Christ, on a cette joie immense d'être entièrement pardonné, entièrement purifié et entièrement aimé de façon gratuite. Dire que la grâce est gratuite, c'est un pléonasme. Parce que la grâce est forcément gratuite. Grâce et gratuit, c'est exactement la même racine. Mais il faut quand même dire que la grâce est gratuite pour insister encore plus dessus. Et donc, ce lépreux, c'est nous. Alors, c'est maintenant qu'on arrive au verset 13, qui est à mon sens un verset bouleversant et qui exprime réellement qui est Jésus-Christ au plus profond de lui-même. Jésus étendit la main, le toucha. Alors, remarquez que s'il est debout et que le lépreux est par terre, s'il étend la main comme ça, il ne peut pas le toucher. Donc, ce qu'il fait, c'est ça. Si je veux toucher quelqu'un qui est par terre, si je me contente de tendre la main comme ça, je ne peux pas le toucher. Jésus-Christ étant un homme comme les autres, il n'avait pas les bras de 2,50 m de long, donc il faut qu'il s'abaisse jusqu'à lui. Et remarquez qu'il veut le toucher, il ne touche pas à la dérobée. Un petit peu, je peux partager donc une expérience dont je ne suis pas très fier. Dans le métro, une fois, j'avais donné une pièce à, vous savez, arrivé plusieurs fois, ce genre de mésaventure, hein, donc à un SDF, et en lui mettant donc, la pièce dans la main, donc il m'a touché la main. Ben, qu'est-ce qu'on fait après? On se lave les mains. Bon, et en se disant, mais c'est pas plus sale que les murs du métro, et même certainement moins. Mais bon. Jésus-Christ, lui, ne rentre pas là-dedans. Il touche l'impur. Remarquez que un juif ne devait pas toucher le lépreux. Il devenait impur. Là, il n'est pas du tout question de ça, puisqu'il ne peut pas être impur. Et c'est pour ça qu'il peut nous pardonner nos péchés. Il peut mourir pour nous parce qu'il est sans péché. Il peut purifier l'impur parce qu'il est lui-même pur. Si on est impur, on ne peut pas purifier quelqu'un d'impur. Pour que l'eau soit pure, il faut purifier, et même l'eau n'est jamais de l'eau complètement pure, chimiquement c'est pas possible, il y a toujours un peu d'impureté. Là c'est pas le cas. Alors, remarquez, pourquoi il le touche? Le lépreux ne lui demande pas, le lépreux lui demande de le purifier, or il va au-delà. Entre parenthèses, c'est souvent le cas, quand on le prie, on s'attend à avoir quelque chose, mais on en a toujours beaucoup plus. Si on prie dans la volonté du Seigneur, ça nous est arrivé à tous, hein, on veut... Bon, on a un besoin réel, et puis on se retrouve, Seigneur, je n'en demandais pas tant. Sauf que quand le Seigneur donne, il donne complètement. Et même au-delà. Donc, pourquoi est-ce qu'il touche? Parce que il faut bien comprendre l'émotion de ce lépreux qui n'a pas été touché depuis des années. Et le premier qui le touche, c'est le Fils de Dieu. Il faut imaginer, quand on est arrivé, on a surtout embrassé les sœurs, donc on a serré la main aux frères, c'est les contacts humains font partie de la vie. Quand vous êtes dans la peine, si vous avez quelqu'un que vous aimez qui vous met la main sur l'épaule, c'est rien du tout. Mais quelque part, ça fait plaisir. Je m'adresser aux messieurs qui s'envoyaient depuis un petit moment. Quand vous avez une dure journée de travail, vous asseyez, vous êtes fatigué, un simple bisou, une petite caresse sur la joue, c'est pas grand-chose, mais franchement, on aime bien ça. Bon, vous imaginez, le lépreux vit seul, personne ne l'a touché, aucun contact humain, ça fait partie de la vie. Et là, le premier qui le touche, c'est le Fils de Dieu. Alors, c'est bouleversant, mais ça rappelle de Corinthiens 5, 21, où il se fait péché pour nous. C'est-à-dire qu'il va jusqu'au bout, il se penche vers nous, il ne meurt pas par hasard, mais c'est parce qu'il faut qu'il meure et parce que par amour pour nous, il doit mourir. Et donc, s'il veut purifier l'impur, il faut qu'il aille jusqu'à l'impur. Et remarquez que pour s'abaisser, il faut vraiment avoir une grande humilité. Parce qu'il s'abaisse face à quelqu'un qui est laid, qui est sale, qui est mal habillé, et que personne n'a touché depuis des années. Donc, il n'est pas dégoûté. Et au contraire, c'est un geste d'amour fantastique. Et c'est parfois, ces passages qui sont très connus, on finit par les lire sans les lire. Certains d'entre nous viennent de l'Église catholique, où on lit beaucoup les évangiles, on a l'impression de connaître, et en fait, on les lit sans les lire. Donc, je vous encourage, les passages les plus connus, prendre de temps, un petit peu de temps pour les méditer. Alors, ça signifie aussi pour nous que rien n'est trop impur pour lui. Quand on témoigne, parfois, il y a des gens qui nous disent « Tu ne sais pas ce que j'ai fait. Tu ne sais pas ce que j'ai fait. » Ce à quoi on peut lui répondre « Toi non plus, tu ne sais pas. » D'accord ? Et donc, les gens s'estiment tellement impurs qu'ils ne peuvent pas être pardonnés. Avoir fait quelque chose de tellement grave. Sauf que, très franchement, quelqu'un qui va toucher ce qu'il y a de pire en termes d'impureté en Israël, qu'est-ce qui est trop impur pour lui ? Donc, s'il y a dans cette assemblée des gens qui ne sont pas encore sauvés, si vous pensez, si tu penses que tu as fait un truc qui est trop impur, tu as tort. Rien n'est trop impur pour le Seigneur Jésus-Christ. Rien, ça veut dire rien. Il peut tout pardonner, absolument tout. Rien n'est trop impur pour lui. Ça ne veut pas dire, si on a fait quelque chose comme un crime par exemple, on ne subira pas les conséquences humaines, ça c'est normal, mais divinement parlant, si on confesse sincèrement, si on se tourne vers lui, il nous pardonne tout. Rien n'est trop impur pour lui. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait qu'on apprenne tous par cœur. Rien n'est trop impur pour lui. S'il touche le lépreux, s'il va jusqu'à toucher quelqu'un d'impur, sans qu'on lui demande, il peut tout toucher. Alors, remarquez, la réponse est immédiate. Donc, la deuxième partie du verset 13, Jésus étendit la main, le toucha, et dit « Je le veux, sois pur. » En disant « Je le veux », il réaffirme, il affirme le fait que il est Seigneur, c'est sa volonté. C'est pas le lépreux qui l'oblige à « Je le veux, sois pur. » Ça fait penser à que la lumière soit. La parole est créatrice. Dans ce cas-là, c'est pas les miracles sont souvent créatifs et pas seulement restauratifs. Ce que je veux dire, c'est que il ne s'agit pas simplement de ramener une personne à son état antérieur, mais c'est une recréation. Le lépreux était mort, il le guérit de sa lèpre, et donc on peut supposer que les lépreux ont des... Excusez-moi, c'est pas très ragoûtant ce que je vais dire, mais des espèces de tumeurs spongieuses sur le visage qui fait qu'ils sont quand même d'une grande laideur. On peut supposer que dans ce cas-là, il est totalement purifié, il n'a plus la tête d'un lépreux, il est complètement recréé. Alors, ça veut dire que la purification est une purification intérieure et elle se voit extérieurement. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui vous disent parfois « Tiens, t'es différent des autres. » Quand tous les collègues critiquent ou si on tourne les talons, quand des collègues commencent à dire du mal, du patron, je ne sais quoi, hop, on s'en va. Il y a forcément quelqu'un qui va le remarquer. Si il ou elle sait qu'on est chrétien, c'est un bon témoignage. La purification intérieure va se voir extérieurement. Remarquez aussi, juste entre parenthèses, la guérison est immédiate. Ce qu'on appelle en anglais les faith healers, donc les guérisseurs par la foi, bon, c'est... Bon, on ne va pas critiquer, mais il y aurait beaucoup à dire dessus. Là, la purification, c'est tout de suite. C'est pas un mois après, c'est quelque chose d'immédiat. Alors, j'aimerais aussi ouvrir une parenthèse là-dessus, c'est qu'il faut faire extrêmement attention avec ce qu'on dit aux gens qui sont malades. J'ai entendu il y a quelques semaines, vous savez, il y a donc aux États-Unis en particulier des programmes donc interactifs où il y a des gens qui appellent pour avoir donc des réponses donc à leurs questions, et puis il y a le pasteur qui les répond. La question c'était un homme qui avait récidive de cancer de stade 4, donc un cancer en phase terminale. Et il expliquait qu'il était allé dans une église, il avait prié pour sa guérison, et qu'il n'avait pas été guéri. L'un des membres de cette église lui a dit, si tu n'es pas guéri, c'est parce que tu n'as pas assez la foi. Alors, c'est une parole terrible, parce que celui qui lui a dit ça est en bonne santé. Donc, il ne faut jamais dire une chose pareille, jamais, parce que... D'abord, parce que c'est vraiment le contraire de l'amour, d'accord ? Que ta volonté soit faite, on prie pour le frère ou pour la sœur. Donc méfions-nous. Oui, Dieu guérit. Le fait-il à chaque fois, c'est lui qui voit. J'ajoute que j'avais une sœur qui est auprès du père maintenant, elle a eu des récidives de cancer, elle insistait à chaque fois pour ne jamais être en chambre individuelle, mais toujours en chambre double, pour pouvoir témoigner à la personne qui était à côté d'elle. Y a-t-il des gens qui sont venus à Christ par ce biais? J'aime à le croire, mais bon, quelque part, je n'en sais rien. Mais c'est quand même un très très beau témoignage. Insister pour ne pas être en chambre simple pour pouvoir témoigner. Alors, nous aussi, il nous purifie totalement. Vous connaissez 1 Jean 1, verset 19. Si nous confessons nos péchés, il est juste. Il est juste pour nous pardonner et nous purifier. Il ne fait pas que pardonner. Purifier, c'est comme si on n'avait rien fait. D'accord ? Donc, il nous purifie aussi. La purification, à mon sens, il y a une grande purification le jour de la conversion, et il y a des petites purifications, parce qu'on va retomber. Et donc, à chaque fois, il nous purifie totalement. C'est un petit peu... quand on prend une douche le matin, ça ne nous empêche pas de... On va se laver les mains plusieurs fois dans la journée. Et à chaque fois, le Seigneur va nous purifier. Alors, maintenant, et après, alors, verset 14. Puis, il lui ordonna de n'en parler à personne. Alors, c'est un ordre qui peut sembler étrange, parce que notre Seigneur Jésus sait tout, donc il sait très bien qu'il ne peut pas ne pas en parler. Il est lépreux depuis des années, il est purifié, il ne peut pas ne pas en parler. Et pourtant, il lui donne quand même cet ordre. Entre parenthèses, il lui demande de ne pas en parler, et il en parle. Il nous est demandé d'en parler, et on n'en parle pas. D'accord ? Ensuite, à peine purifié, quelque part, il y a déjà une petite désobéissance. Compréhensible, certes, mais il y a quand même désobéissance. Alors, il lui dit exactement d'aller se montrer au prêtre. Regardez bien. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Alors, il ne veut pas qu'il en parle à tout le monde. Pourquoi ? Parce que si tout le monde sait qu'il purifie, si tout le monde sait qu'il guérit, il sera considéré comme quoi ? Comme un guérisseur. Or, Jésus-Christ a guéri, mais c'est un moyen. La guérison est un moyen, et pas un but en soi. Il est venu pour mourir pour nous, et les miracles, les guérisons, purification, c'est à chaque fois un moyen, un enseignement sur sa personne et sur son œuvre. Mais s'il est considéré comme guérisseur, il y a des tas de gens qui vont venir pour être guéris et puis ensuite s'en aller. Alors que là n'est pas le but. J'ajoute aussi que il ne faut pas appuyer une conversion sur une guérison. Guéris-moi et je me convertirai. Ça s'est effectivement produit, mais c'est toujours extrêmement dangereux parce qu'on ne connaît pas la volonté du Seigneur. Alors, pour que cela leur serve de témoignage. Alors, on ne va pas rentrer dans Lévitique 14, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais on va quand même parler du début. Je vous rappelle qu'il lui dit d'aller se montrer au prêtre, mais comme il est impur, c'est le prêtre qui va vers lui. Donc, exactement comme Jésus-Christ est allé le toucher. Donc, le début de Lévitique 14. Alors, on va lire les 7 premiers versets. Il faut lire Lévitique 13 et Lévitique 14 en même temps, Parce que Lévitique 13, c'est toute la liste des impuretés, et on se dit, mais la solution, c'est quoi? La solution, elle est dans Lévitique 14, qui parle de Jésus-Christ. Alors, l'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi sur le lépreux, pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur sortira du camp, il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne, pour celui qui doit être purifié, deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope. Il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera sept fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Étrange passage. Alors, regardez bien. En fait, c'est très clair. Il y a deux oiseaux. L'oiseau vient du ciel. Le premier oiseau signifie l'incarnation. Il est sacrifié. Le sang coule. Avec ce sang, on asperge celui qui a été purifié. Et on trempe le deuxième oiseau dans le sang du premier et on le laisse aller. Donc, suivez-moi bien. Le premier oiseau, incarnation, mort de notre Seigneur. Le deuxième oiseau, résurrection et ascension. Tout ça, à la fin du verset 5, sur de l'eau vive. Qu'est-ce que c'est que l'eau vive? C'est l'Esprit Saint. Alors, on pourrait développer un petit peu plus tard, mais vous remarquerez aussi que donc on égorge un agneau, il est question du sang de l'agneau, il est question de l'huile. Donc, tout ça, ça part de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour que cela leur serve de témoignage, pour leur montrer que les sacrifices, ça n'est pas une fin en soi. Les sacrifices tendent vers lui. Les sacrifices de tout l'Ancien Testament disent « Jésus-Christ va venir pour nous purifier totalement et complètement ». Alors, là, c'est en termes un petit peu, on va dire cachés. Mais de toute manière, les choses sont très très claires. Jésus-Christ est venu, c'était prévu. Je vous rappelle que Moïse, c'était vers 1800 ans avant Jésus-Christ. Hein. Donc, c'était prévu de très 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 longtemps avant. Donc, tout l'Ancien Testament, bien sûr en particulier ces quelques passages qu'on vient de lire, signifie qu'il va venir nous purifier totalement. Il est question d'incarnation, de sa mort, de sa résurrection, du sacrifice qui nous sauve et de l'Esprit Saint. À chaque fois qu'il est question d'huile dans l'Ancien Testament, la plupart du temps, il y a l'Esprit Saint. Donc, tout ça pour nous dire que la purification physique est un moyen et non une fin en soi. Pourquoi dit-il? Afin que cela leur serve de témoignage. De témoignage à qui? Bon, aux prêtres. Parce que les prêtres étaient parmi ceux qui connaissaient le mieux la parole, mais est-ce qu'ils comprenaient ce qu'ils faisaient? Probablement pas. Donc, offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage, afin qu'ils voient que c'est lui, le Fils de Dieu, c'est lui qui est venu pour nous sauver, et c'est lui qui était attendu depuis des siècles et des siècles. Alors, pour nous, chrétiens du 21e siècle, il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'on a conscience de l'étendue immense de son amour? Quelqu'un, qu'est-ce qu'il devrait faire? Voyons le lépreux arriver, il devrait sortir des pierres et jeter des pierres. Pas du tout. Au contraire, il va se baisser vers lui pour le toucher. Pour, en quelque sorte, rentrer dans sa sphère, même si bon, c'est peut-être pas une expression très heureuse. Il va le purifier et il va le réintégrer dans une vie normale. Donc, il est réellement... On peut parler de résurrection, puisque le lépreux était mort. Il était vivant d'un point de vue mécanique, mais bon... En pratique, il était mort. Et donc, il le réintègre, sauf qu'il est sauveur. Prendre Jésus-Christ comme un guérisseur, Jésus guérit, alors c'est vrai, il guérit. Mais faisons bien attention, nous devons nous appuyer plus sur la guérison spirituelle que sur la guérison physique. Parce que la guérison spirituelle, c'est toujours le cas. À À partir du moment où on a Jésus-Christ dans son cœur, il nous guérit toujours spirituellement. Souvenez-vous du jour de votre conversion. On n'était pas bien. Mais à partir de la conversion, on est pris d'une joie qui est difficile à expliquer. Alors malheureusement, bon, la joie se perd petit à petit, un petit peu comme une casserole d'eau qui va lentement refroidir. Mais Jésus-Christ est venu pour nous sauver, il est venu pour mourir pour nous. Et la purification de ce lépreux est certainement un moment bouleversant. Et il faut bien partir du principe que, quand nous sommes dans la peine, en fait, Jésus-Christ est le seul à avoir appliqué les béatitudes. Quand nous sommes dans la peine, c'est arrivé à tous, hein, quand on a perdu donc un être cher, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure avec nous. Quand on a perdu un être cher, généralement, ceux dont on se souvient, c'est ceux qui ont parlé le moins possible et qui ont pleuré avec nous. Ceux qui ont trop parlé, on ne sait plus trop ce qu'ils ont dit. Et donc, il pleure avec nous et il va jusqu'au fond du fond. 2 Corinthiens 5, verset 21, il s'est fait pécher pour nous. On peut finir là-dessus. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 21. Voilà. On peut prendre tout à fait à partir du au milieu du verset 20. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, réellement, mes frères et mes sœurs, ayez confiance que si vous avez Jésus-Christ dans votre cœur, il peut tout pardonner et il peut tout purifier. S'il a purifié un lépreux, s'il a touché un lépreux, qu'est-ce qui est impur pour lui ? Rien. Rien n'est impur. Le monde cherche à justifier l'impureté. Lui ne justifie pas l'impureté. Il la prend sur lui pour en débarrasser tout le monde. D'accord ? Et donc j'en terminerai là-dessus. Ceux qui n'ont pas encore Jésus-Christ dans votre cœur, ne tardez pas. Il peut vous purifier. Il le veut. Il attend uniquement que vous vous jetiez à ses pieds. On parle au figuré, évidemment. Et le souhait que nous faisons tous, c'est que vous fassiez ce pas de foi aujourd'hui, afin que votre vie soit complètement changée et purifiée. Amen.
Amen.